3. La règle du jeu. Il déconcertera toujours le pauvre chevalier qui brandit son épée et attend qu'on lui oppose une épée, en lui opposant un emprunt envers soi au denier 16, 6,25%, tandis que les prêts des marchands sont entre 12 et 15%. Jean Giono. Cette pénible affaire qui faillit m'envoyer par le fond au large de Mélesme était le fruit d'un projet mûri 3 ans plus tôt, avant même que n'éclate la guerre civile tchoudalienne. À l'époque, le podestat Léonide Ducatore caressait déjà l'idée de donner la main de sa fille au duc de Bromel. Les relations étaient pourtant tendues entre les deux dirigeants. Une vieille chicane qui avait eu lieu quelques années auparavant et au cours de laquelle les deux matois avaient rivalisé de duplicité sur la question de la dette bromaloise, avait fini par déboucher sur le sac de Kelsbruck. J'avais un peu trempé dans ces grenouillages comme dans le bain de sang qui avait suivi. J'occupais à l'époque un rang encore très subalterne, mais j'en avais suffisamment vu pour me persuader que le duc chercherait tôt ou tard à prendre sa revanche. Toutefois, cela n'avait pas eu l'air de contrarier le moins du monde les projets matrimoniaux du podestat pour sa fille. « Dans la noblesse, m'expliqua-t-il plus tard, c'est avec ses ennemis qu'on fait les meilleurs mariages. » Autre obstacle et non des moindres, Ganelon de Bromel était déjà marié, et la duchesse Odéarde n'était pas du genre à se laisser marcher sur la traîne. Mais cela non plus n'avait pas trop l'air de tracasser le podestat. Comme souvent, il avait quelques cartes en main, et il attendait le moment opportun pour les abattre. Ce moment vint à l'issue de la guerre civile, quand Léonide Ducatore chassa ses opposants et s'imposa comme l'homme fort de Tchoudalia. Tout en préservant les apparences de la légalité et les institutions de la République, le chef de la faction victorieuse était devenu prince de fait, sinon en titre. Les élections à la podestatie n'étaient plus qu'une farce civique, puisque seuls les partisans et les ralliés du grand homme siégeaient encore au Sénat. Dès lors, Léonide Ducatore parlait vraiment d'égal à égal avec Ganelon de Bromel. S'il avait été moins bien élevé, il aurait même pu lui disputer la préséance, car ses caisses à lui étaient pleines. Une alliance matrimoniale entre les familles Ducatore et Bromel devenait inévitable. Ce qui fut plus original, ce fut de marier la fille tchoudalienne, non pas à l'un des héritiers bromalois, mais au duc en titre. Pour parvenir à cette brillante union, le podestat aida financièrement quelques bonnes âmes à soulager leur conscience et à dénoncer une vieille histoire d'adultère. Le procédé était élégant. Il permettait de rendre le duc garçon sans se souiller les mains dans le sang de la duchesse. La suite coulait de source. Je ne suivis que de très loin les négociations et les préparatifs de ce mariage, et ma présence ne fut pas désirée aux cérémonies. D'autres s'en seraient offusqués. Le bon peuple s'était même un peu étonné que j'aie été mis sur la touche. Après tout, je passais pour le sauveur de la fiancée qui, sans mon intervention, aurait eu drôlement chaud aux fesses dans l'incendie du palais Mastigia. Mais cette ingratitude, moi, ça me convenait. D'abord, soyons lucides. Je n'ai pas vraiment une gueule de garçon d'honneur. Ensuite, tous les tralalas des cérémonies officielles, ça m'a toujours gavé. Je m'en farcissais une telle ribambelle auprès du patron que la fête, pour moi, c'était d'en rater une. Enfin, je dois bien l'admettre, j'étais un peu en froid avec la donzelle, pardon, la future altesse ducale. Son paternel et moi, on était tombés d'accord pour que je décline l'invitation à la noce en invoquant une excuse quelconque. Ça arrangeait le podestat et ça me soulageait. De la part de Clarissima Ducatore, qui avait toujours été une sale peste, je craignais un coup d'éclat au milieu du patriciat tchoudalien et de la noblesse bromaloise. Mais le poids le plus lourd qui m'était retiré, c'était l'interminable cortège nuptial. Après un mariage par procuration, prévu dans le sanctuaire de la déesse douce, la jeune épousée et sa suite devaient prendre la mer pour rejoindre le ducal époux dans son lointain patelin. J'avais échappé à la croisière. Du moins, j'avais eu la faiblesse de le croire. Débarrassé de la pimbèche et dispensé de canotage, double bénef. Il convient aussi de préciser qu'à l'époque, j'étais loin de me tourner les pouces. J'étais devenu quelqu'un d'important, avec des responsabilités. Le rôle que j'avais joué au cours de la guerre civile, en particulier dans la destruction du clan Mastigia, avait achevé de griller ma couverture. De notoriété publique, le maître espion de son excellence Ducatore était une pointure de la guilde des chuchoteurs. L'honorable société, qui contre monnaie sonnante et trébuchante, exécutait les vendettas au service de commanditaires trop respectueux de la décence pour se commettre personnellement dans de pareilles bassesses. D'ordinaire, la guilde n'appréciait guère qu'un de ses soldats prenne la lumière. Mais force lui était de reconnaître qu'en dépit de quelques écarts, j'avais su m'imposer dans l'entourage du premier personnage de la République, qui payait mes services un pont d'or, émoluments sur lesquels je versais ma dîme à l'honorable société. Estimant que je pouvais rapporter davantage si j'étais plus distingué, le conseil muet m'avait fait monter en grade et m'avait décerné l'anneau de commensalité. Cette bagouze ne dira rien aux caves et aux pelures. Elle est même conçue pour passer inaperçue. C'est un jonc fait dans un métal sans grande valeur, du cuivre ou du cuivre jaune, parfois du bronze. Certains ont un chaton avec un brillant en toque, généralement du vert coloré. Le mien en était dépourvu. En revanche, tous les anneaux de commensalité ont deux points communs. Ils sont de petite taille et ils semblent incisés d'une devise. Leur faible diamètre, qui possède une fonction aussi pratique que sinistre, fait qu'on les glisse généralement à l'auriculaire, même si ce n'est pas une obligation. C'est plutôt un pis-aller, vu que la règle est de les porter à la main la plus forte, la main qui tue. L'inscription qui les fait passer pour un colifichet à devise ne comporte qu'un mot. Il serait difficile d'en graver davantage sur cette minuscule babiole. Bien que ce terme ne soit presque jamais le même, il s'agit à la fois d'un leurre et d'un signe de reconnaissance. C'est toujours un nom de plat, genre Piadina, Salamé ou Grissino. Du coup, si un fouineur, ou la fille avec qui vous vous envoyez en l'air, s'amuse à déchiffrer votre anneau, ils n'y verront qu'une fadaise, ce qui, au pire, les fera rire. C'est même l'une des raisons pour lesquelles les chuchoteurs surnomment plaisamment cette bagouze « l'anneau du gourmand ». Par contre, les affranchis, quand ils découvrent que votre louche est ornée de cette joncaille culinaire, vous considèrent avec un respect teinté d'effroi. Eux savent ce que signifie ce bijou et ce que vous avez fait pour l'avoir. Le mien, de jonc, avait pour inscription « Focaccia ». Et même si j'étais fier de l'avoir décroché, il m'a fallu plus d'un an pour voir de la focaccia sans perdre l'appétit. Pour faire court, l'anneau de commensalité distingue un archisuppôt dans l'honorable société. Seul un cagou ou un maître espion peut occuper cette position. Et tous sont loin de l'atteindre. Le commensal est une huile attachée directement au conseil muet. Dans sa chapelle, il reçoit l'hommage de tous les chuchoteurs de rang inférieur, y compris les maîtres espions ou les cagous qui n'ont pas la bagouze. Qu'on n'aille pas se monter le bourrichon, ça ne représente jamais plus d'une dizaine d'hommes d'honneur. Mais ce sont tous des scélérats plus affûtés que la lancette d'un barbier. Toutefois, le privilège le plus redoutable que confère l'anneau du gourmand, c'est la proximité avec le conseil muet. Le commensal en reçoit les ordres directs et il a le pouvoir de lui faire remonter ses renseignements, ses conseils et ses réclamations. Quand j'ai appris que j'allais être honoré de cette distinction, j'ai cru que j'allais être mis en présence des grands couers et j'avoue que ça m'a mis dans mes petits souliers. Il y a des noms et des visages qu'il vaut mieux ignorer. En fait, la cérémonie de remise de l'anneau n'a eu lieu qu'en présence de quatre autres commensaux, dont un émissaire qui n'occupait pas un des sièges du conseil, mais serait chargé de faire le lien entre les maîtres de la guilde et ma pomme. Dans un sens, cela m'a soulagé. Dans un sens seulement, parce que l'émissaire, ça faisait des années que je le connaissais et que je le prenais pour un cave. Il s'agissait de Don Ledio Dieto, un des petits grands-pères qui prenaient le soleil sur leur pas de porte tous les matins via Mala, où ils avaient l'habitude de me bénir avec ingénuité. Quand j'ai vu l'ancêtre avec les cagous, J'ai d'abord cru que c'était une blague. Ou l'épreuve. Mais il n'était ni l'un ni l'autre. Il l'a regardé avec son sourire doux toute la cérémonie, dont je suis sorti avec du sang jusqu'au coude. En fait, le gentil Pépé était un arcan au cœur de Silex. Il m'avait surveillé pendant des lustres, et je n'y avais vu que du feu. Il m'a ensuite expliqué que, comme on se croisait presque tous les matins, la liaison avec le conseil se ferait tout naturellement. Et puis il m'a souhaité bon appétit. Ma participation au coup de force du podestat avait donc fait de moi un cadre dans le demi-monde de la barbouzerie républicaine. En somme, aux yeux du patron, j'étais devenu une sorte de majordome. J'avais mes entrées dans les salles de banquet comme dans les arrière-cuisines. Je servais d'intermédiaire avec les fournisseurs et je faisais barrage avec les raseurs. Bref, sous mes faux airs de larbin, c'était moi qui faisais tourner une grande partie de la boutique. Je ne nierai pas que je tirais quelques avantages de cette situation. Entre les gages versés par le podestat et les cadeaux glissés par les intrigants qui cherchaient à l'approcher, je faisais gras. Avec l'agrément du conseil muet, j'avais également pris sous ma protection quelques établissements en ville, comme la taverne de l'Olivier ou le tripot des doués de Charleré, histoire de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. J'avais même acquis une maison via une bosca, dans le quartier de Benjouini. Je l'avais eue pour une bouchée de pain, l'ancien propriétaire ayant été tué dans le mauvais camp pendant la guerre civile. La bicoque était sobrement bourgeoise et surtout fort pratique, avec ses trois entrées et ses caves communicantes. Je n'y passais que de temps en temps, continuant à crécher dans ma chambrette du palais Ducatoré, mais je logeais dans ma nouvelle propriété trois ou quatre braves garçons qui expédiaient mes affaires courantes. En somme, les troubles m'avaient profité. Je prospérais, et je mesurais ma fortune au mépris et à la jalousie qu'elle suscitait chez les gens mieux nés que moi. Et pourtant je mentirais si je disais que la vie me souriait. Juste avant la guerre civile, la victoire de la République contre le royaume de Récine m'avait fait la leçon. Ce n'était pas parce qu'une guerre était gagnée qu'elle était finie. Et quand elle était enfin terminée, ses morts servaient souvent de fumure à la suivante. En d'autres termes, une fois qu'il avait soumis ses ennemis et conquis le pouvoir suprême, Léonide Ducatoré n'avait fait que troquer un péril pour un autre. Il en était parfaitement conscient. Au soir où il avait parachevé l'épuration du Sénat, il nous avait confié, à nous autres du premier cercle, « Nous avons accompli le plus facile. Désormais, nous attendent les vrais défis. » Pour Spada Matado, le chef de sa garde privée, et pour moi, le vrai défi consistait à assurer la sécurité du patron. Léonide Ducatoré était devenu l'homme à abattre. Dans le royaume de Récine, le chat Eurymaxas rêvait certainement de tirer vengeance de son humiliation et de sa défaite. Dans le duché de Bromel, on pouvait craindre que la coterie de l'ex-duchesse envisage d'éliminer le nouveau beau-père du duc pour saper l'influence de Clarissima Ducatoré. À Ciudadela, les rescapés du parti belliciste aiguisaient secrètement leurs poignards pour tuer le tyran. Enfin, au sein même du parti souverainiste, on ne pouvait exclure qu'un ou deux ambitieux rêvaient déjà de précipiter sa succession. Il fallait donc s'attendre à tout, surtout au pire, partout et tout le temps. Quand je parle du pire, je fais bien sûr allusion à mes confrères de l'honorable société. Si la guilde des chuchoteurs est strictement compartimentée en chapelle, c'est pour pouvoir louer ses services à tous les partis. Ce qui fait que, quelle que soit l'issue des vendettas tchudaliennes, le conseil muet y retrouve toujours ses billes. Corollaire un peu fâcheux, on a parfois des explications entre collègues. Les plus tordus survivent. Ma hantise, c'était de laisser un confrère se glisser à portée du podestat. Je me tenais tout le temps aux aguets, quand j'escortais personnellement le patron, mais aussi quand j'expédiais d'autres affaires. Il fallait anticiper les menaces, d'où qu'elles viennent, et en aviser le grand homme comme ses porte-glaives. Ce qui n'arrangeait rien, c'était que l'enseigne Spada Matado m'avait dans le nez. L'ancien officier me trouvait trop crapule et trop bien introduit auprès du podestat. Il avait eu du mal à avaler mon incartade avec Clarissima Ducatore. Surtout, il n'avait jamais digéré que je lui ai tué quelques sous-fifres peu avant mon recrutement. Il n'attendait qu'un mot du grand homme pour me faire passer l'arme à gauche. Mais en attendant qu'on lui lâche le collier, ce chien de garde bien dressé se faisait violence et devait bon gré mal gré collaborer avec votre serviteur. On échangeait donc nos tuyaux en gardant toujours un couteau à portée de main. Malheureusement pour la collecte des commérages, ma bonne réputation me précédait partout. Il ne m'était plus possible de laisser traîner mes oreilles dans les bouges et les tripots, ou de me faufiler incognito dans les communs des grandes maisons. Depuis que j'avais défrayé la chronique, j'étais connu comme le loup blanc à Tchoudalia. Dans la rue, les gens s'effaçaient frileusement devant moi et murmuraient sitôt que j'avais passé. Dans les tavernes, on se taisait dès que j'apparaissais. Dans les boutiques, j'étais servi avant tout le monde avec une craintive obséquiosité. Objet de tant de politesse, il m'était devenu difficile de surprendre des confidences. C'était comme si l'âme bruyante de la cité m'avait entouré d'une bulle de méfiance. Je n'irai pas jusqu'à dire que tout le monde me fuyait, loin de là. Mais les gens qui osaient encore m'approcher appartenaient à l'engeance des intrigants et des fripons. Ils espéraient utiliser mon influence, m'extorquer de l'argent, ou tout simplement épater la galerie en flattant la bête noire. J'essayais bien sûr de tirer les vers du nez à ces parasites, mais quel crédit accorder à leur racontard? J'en étais réduit à entretenir un petit réseau de mouchards, à qui je n'accordais d'ailleurs qu'une confiance assez mince. Il va sans dire que le podestat avait trouvé une utilité à la trouille que j'inspirais. Il m'envoyait faire des visites. Quand il trouvait qu'un débiteur tardait un brin à payer les intérêts, quand un sénateur rallié lui semblait fuyant ou tiède, quand un négociant faisait un peu trop de concurrence à ses commis, il me chargeait d'adresser son bon souvenir à ces braves gens, en tout bien tout honneur. Parfois, il suffisait que je prenne la pause devant le seuil d'une maison pour que tout rentre dans l'ordre. D'autres fois, j'allais plus loin. Je m'annonçais, j'acceptais gracieusement la coupe de vin et les encas qu'on me servait d'une main tremblante, et je surveillais mon langage en m'enquérant de la santé de la petite famille. On me faisait la conversation en me grimaçant des sourires qui suaient l'angoisse. Le massacre du palais Mastigia était dans tous les esprits. Ceux de mes hôtes comme le mien. Et sans en dire un mot, on savait tous que tout le monde y pensait. L'effet de ces visites de courtoisie était prodigieux. Je confesse que j'en tirais de douces satisfactions d'amour-propre, même si je restais toujours sur mes gardes, au cas où je serais tombé sur des idéalistes désireux de jouer les anges vengeurs. Je commençais à m'habituer à cette existence couronnée de lauriers douteux, quand le mauvais sort finit par me rattraper. C'était au début de l'automne, quelques jours avant la fête du bain de la déesse, et 5 mois avant la tempête au large de Mélesme. Ce soir-là, je revenais d'une course, porteur de quelques potins et de diverses protestations de loyauté au podestat. Les journées étaient encore chaudes à Tchoudalia. Je restais à l'ombre des façades palatiales de la Via Cavallina, tout en me méfiant des porches et des fenêtres aux volets mi-clos. On n'était jamais trop prudent. Ma liquidation dans un lieu public, par exemple dans un quartier aussi huppé que Torrecella, aurait adressé à mon patron un message des plus éloquents. Il y avait foule quand j'arrivais au carrefour de la Via Zecchina et de la Via Cavallina. Comme d'habitude, un gros attroupement de quémandeurs, d'importuns et de pétitionnaires s'agglutinait au pied du palais Ducatore. Le seuil était gardé par 3 hommes de main de Matado. Le sarcastique Lupo, le téméraire Sorrezzini et le robuste Coneotti. Ces gaillards représentaient la crème spadassine de la République, des bretteurs en pourpoint tracé, aussi parfaitement respectueux des usages que dépourvus de scrupules. Capable de disserter sur le lassage des aiguillettes et l'art d'amidonner une collerette, tout en essuyant le sang de leurs lames. Il suffisait de deviser avec nonchalance, la main distraitement posée sur le pommeau de l'épée, pour maintenir le troupeau des raseurs à distance respectueuse. Il faut dire que, comme moi, ils avaient pris leur part dans la guerre civile. Et si certains d'entre eux avaient trinqué, Sorrentini et Conneotti en particulier, ils arboraient leurs cicatrices comme autant de trophées et possédaient un tableau de chasse à faire frémir. Ayant fendu la foule des fâcheux, je m'apprêtais à franchir le seuil d'un bon pas en gratifiant les porte-glaives d'un vague salut. Sorrentini ébaucha un signe du bout des doigts pour attirer mon attention. Je m'arrêtai à sa hauteur. « Ouais ?»« Son Excellence te fait chercher. On voudrait te voir. »« Et où je la trouverai, Son Excellence ?»« À l'intérieur, qu'est-ce que j'en sais ?»« Il paraît juste que l'affaire est d'importance. » Je hochai légèrement la tête et j'entrai. Ce n'était jamais bon signe d'être ainsi convoqué. Non que ça m'ait chiffonné plus que d'ordinaire. L'expérience m'avait juste enseigné que lorsque le patron requérait votre présence, il fallait se préparer à de dangereux micmacs enrobés de tact et d'apologie. L'intérieur de l'enceinte était également noir de monde. Les escortes des visiteurs du podestat encombraient la porterie et la cour intérieure. Je reconnus les spadassins et les laquais de plusieurs sénateurs, ce qui me donna à penser que le patron était en train d'arranger les votes des sessions à venir au palais curial. Plus surprenant, je croisais Donna Fiducia Scernitore, en toilette de deuil, qui, accompagnée de ses enfants et de sa suite, était manifestement sur le départ. Contrainte par les circonstances, la grande dame rendait souvent visite au podestat, au mépris des convenances. Je me demandais toujours s'il y avait quelque chose entre ces deux-là, malgré les relations très compliquées qu'ils entretenaient. Le patron, en tout cas, prenait plaisir à gâter ces deux garçons, Gentilino et Pabilo. Quand ils venaient lui présenter leurs hommages, il aimait les garder à souper. Qu'ils partent ainsi en début de soirée était pour le moins inaccoutumé. Il y avait vraiment anguille sous roche. En me renseignant auprès de la Valtaille, j'appris que le patron recevait dans la loggia marine. Je traversai donc le cortile en coup de vent et m'empressai de la gagner. Que Leonide Ducatore ait choisi ce coin du palais pour tenir conciliabule était un signe en soi. Il ne traitait pas dans la grande salle, aux proportions majestueuses et au luxe insolent. L'entretien n'avait donc rien de formel. Toutefois, il ne se trouvait pas non plus dans son cabinet de travail, dont la porte n'était ouverte qu'à ses familiers. En accueillant ses interlocuteurs dans la loggia marine, il les honorait comme des amis de passage, puisqu'il leur donnait accès aux appartements privés et à l'agrément des jardins. Mais il se gardait de les introduire dans le siège secret de son pouvoir. Ayant gravi 4 à 4 l'escalier au médaillon, j'arrivai à pied d'œuvre. Le vieux Ferlino, un des dogues de Matado, montait la garde sur le seuil et m'invita à entrer d'un signe de tête. Située au premier étage du second corps de bâtiment, la loggia marine était une galerie haute et spacieuse qui dominait le parc du palais. Depuis sa balustrade, on découvrait une vue unique sur Ciudalia. La ville formait un amphithéâtre presque parfait au-dessus de la mer. Derrière le rideau léger des cyprès et des pins parasols, dévalaient les toits ocres de la cité, lancéolés çà et là des tours des palais nobles. Tout en bas, dans les bassins du port, se pressait la futaie colorée des gréements et des flammes. Au loin, les reliefs bleutés des îles de Castelonegro et de Desicada protégeaient la baie sillonnée de voiles. Par-delà, l'océan et le ciel s'étiraient dans une ivresse d'azur. Entrant dans la loggia, j'eus un bref éblouissement. Peut-être était-ce un effet du contre-jour. Le contraste entre la luminosité du panorama maritime et la pénombre qui régnait dans la galerie semblait obscurcir les lieux. C'était comme si la nuit dissimulait déjà ses enfants perdus dans les recoins de la voûte en pendentif. Je distinguais une dizaine de personnages, dont la plupart formaient un cercle lâche, confortablement installés sur des fauteuils et des banquettes, mais il me fut difficile d'accoutumer mes yeux au clair-obscur. Ce petit comité rassemblait une sacrée brochette d'hommes de pouvoir. Outre Leonidi Ducatore, qui fit mine de ne pas voir mon arrivée, siégeaient pas moins de 5 sénateurs. Ténor du parti souverainiste, Cernicalo Actanza et Reggento Balsamire étaient tout naturellement de la partie. Son Excellence Actanza était le collègue de son Excellence Ducatore à la Podestatie, pour le mandat en cours. J'avais donc l'honneur de me trouver en présence des deux magistrats suprêmes de la République, ou de ceux qui en restaient. Deux ralliés de la faction plutocrate, l'onctueux Gatteggia Monatore et l'austère Dorato Punzone, participaient également au conseil. Quoique fort dissemblables de physique et de tempérament, ces vautours-là avaient en commun un certain flair et se trouvaient avant tout gouvernés par leur intérêt. Ils avaient soutenu assez tôt le patron, avant même le début de la guerre civile, et avaient ensuite profité de la ruine de plusieurs membres de leur parti pour se gaver sans scrupule. En raison de leur proximité avec le nouvel homme fort, ils servaient désormais de relais entre le podestat et les débris de la formation plutocrate. Enfin, l'inusable Céleste Faleri était tout naturellement de la fête. Il représentait quant à lui la faction belliciste ralliée à Leonidi Ducatore, ce qui signifiait concrètement qu'il se représentait surtout lui-même. Un peu en retrait de cet aéropage siégeait le jeune Cesarino Rasicari, récemment élevé au rang de patrice, qui m'adressa un signe de tête aimable comme j'entrais. Scaltro, le premier valet du patron, était le seul domestique admis dans les lieux pour le service des invités. Cette précaution suffit à me confirmer qu'on causait de choses sérieuses. Raide comme la justice, dans le fond de la galerie, Spada Matado jouait les officiers d'ordonnance, restant à disposition du podestat. Le briscard me toisa avec sa cordialité ordinaire. Aussi, je me sentis obligé de lui rendre son regard ombrageux. Je débarquai au milieu d'une conversation qui roulait depuis un moment, à en juger par les coupes à moitié vides et les reliefs des amuse-gueules. En adoptant une discrétion de bon aloi, je fis de mon mieux pour deviner de quoi on parlait. Que c'est brillamment conçu, flagornait le gros sénateur Monatore en s'épongeant délicatement le front d'un mouchoir de batiste. Comme on y reconnaît votre génie, Don Leonide, tout infusé d'audace et de hauteur de vue. Vous nous ouvrez des perspectives étourdissantes. Toutefois, et je vous prie d'excuser le caractère tristement terre-à-terre de ma question, avez-vous pesé tous les risques de l'entreprise ? Cela va coûter très cher, renchérit sévèrement Dorato Punzone, et le retour sur investissement paraît assez incertain. Le podestat accueillit ses réserves de bonne grâce. Vous avez raison, messeigneurs. La mobilisation d'une flotte et de 6000 phalangistes va se révéler onéreuse. Mais quelle alternative avons-nous? Allons-nous désarmer nos navires de guerre? Allons-nous licencier le régiment Casaorca? Compte tenu des menaces qui pèsent sur la République, ce ne serait guère avisé. Dès lors, si nous gardons nos forces militaires en activité, autant rentabiliser le financement que leur alloue le Trésor. Il sera plus profitable à l'État de les envoyer en opération que de les laisser oisives. Forcément, la mention d'une flotte et du régiment Casaorca me fit dresser l'oreille. Et pourtant le patron parlait de ses préparatifs militaires le plus tranquillement du monde, comme s'il s'était agi d'une petite transaction commerciale. Ce sang-froid un peu détaché était l'une des forces de Leonidi Ducatore. Il était capable de deviser l'air de rien, avec naturel et bienséance, des combinaisons les plus frelatées et des stratégies les plus saignantes. Cet homme au physique quelconque, qui s'habillait de simples pourpoints de futaine, dans un milieu où paradaient les modes les plus sophistiquées, possédait l'autorité aimable d'un esprit plein de mesure et de politesse. Mais cette urbanité ne trompait désormais plus grand monde. Plus personne ne pouvait ignorer que, derrière ce masque étudié, brûlait l'âme la plus ambitieuse et la plus insatiable de la vieille noblesse tchoudalienne. On ne peut qu'abonder dans votre sens. Quel gâchis ce serait de payer nos troupes à ne rien faire, concéda servilement le gros Monatore. Mais peut-être aurez-vous la bonté de m'éclairer sur un point. Cette expédition va malgré tout grever les comptes publics. Quelle recette mérite pareil investissement? Le fait est que l'Ouromagne est une contrée aussi lointaine que déshéritée, observa prudemment Regento Balsamire. Que gagnerons-nous à y envoyer une flotte? La question sera fatalement soulevée au Sénat. Ce qui troublera aussi nos partisans, renchérit le podesta Actanza, d'un air réfléchi, c'est que nous engagerions ainsi une politique belliqueuse après avoir banni la faction belliciste. Cette volte-face risque de semer le doute dans les rangs souverainistes. Le podesta opposait une expression amène à ces objections, comme s'il les avait prévues et se faisait par avance un plaisir de les réfuter. « À la vérité, nous n'entrerons pas en conflit, » nuança-t-il, « et ce pour une raison fort simple. Les clans barbares de Romagne ont des chefferies, mais rien qui ressemble à un état constitué. Nous n'aurons aucun interlocuteur avec qui traiter. Juridiquement parlant, nous ne serons donc pas en guerre. Pratiquement non plus, d'ailleurs, puisque nous nous contentons de soutenir le duc de Bromel contre les bandes de pillards qui harcèlent ses marches. Ce sont les troupes du duché qui mèneront l'offensive. Notre flotte leur fournira juste un appui depuis la côte en ravitaillant l'armée et en lui fournissant une solution de repli au cas où la campagne tournerait court. Du reste, les clans ouromans n'ont pas de marine assez organisée pour tenir tête à nos navires de guerre. Or, les périls ordinaires de la mer, nos forces ne risqueront rien. Même si elles se déroulent sans accrocs, une expédition si lointaine aura un coût élevé, s'entêta le sénateur Punzone. Comment rentrerons-nous dans nos frais? Eh bien, pour commencer, en affermissant la confiance entre le duc Ganelon et la République. Cette alliance permettra l'essor de notre commerce dans le duché. La figure émaciée de Dorato Punzone demeura de marbre. Visiblement, l'argument lui paraissait trop filandreux pour qu'il lui accorde le moindre crédit. Nos liens avec la noblesse bromaloise sont anciens, et le mariage de son Altesse votre fille avec Ganelon les a resserrés, observa-t-il. La dot exorbitante que vous versez à votre gendre suffit largement à financer sa guerre sans que nous nous en mêlions davantage. Rien dans ce que vous me dites ne me permet de concevoir un bénéfice plus immédiat et plus substantiel. J'y arrive, Don Dorato, susurra le podesta. Alors que je me tenais tout ouïe, je me rendis compte que j'éprouvais une impression aussi diffuse que bizarre. J'avais du mal à me concentrer. Non pas sur la conversation, au contraire. Les échanges me parvenaient, on ne peut plus limpides, dans leurs implications comme dans leurs non-dits. Mais j'avais la troublante impression de ne pas y voir parfaitement. C'était comme si je ne parvenais pas à m'accommoder complètement au clair-obscur. La légère colonnade qui ouvrait sur les jardins, par effet de contraste, traçait son épure noire sur le ciel très bleu. Et la lumière maritime, au lieu de baigner cette galerie comme à l'ordinaire, paraissait au contraire l'assombrir. Je n'étais d'ailleurs pas le seul à être ainsi gêné. Il me semblait que plusieurs des sénateurs plissaient les yeux dans une mimique qui trahissait autre chose qu'un effort de réflexion. « Nous y gagnerons sur plusieurs tableaux », poursuivait tranquillement Léonide Ducatore. « Le duc a pour dessein de conquérir la région qui s'étend sur la rive gauche de la Claye. À partir du moment où il aura pris le contrôle de territoires au-delà de Wickensberg, nous aurons besoin d'un mouillage pour faire l'égade de nos équipages et assurer le ravitaillement des troupes bromaloises. En contrepartie de notre soutien, j'ai obtenu de mon gendre la promesse de nous céder un site sur le littoral pour y installer un comptoir. En d'autres termes, nous pourrons fonder un port franc aux confins de Bromel et de Louromagne. Vous envisagez sans peine les opportunités que nous offre pareille implantation. Plusieurs de ces auditeurs se carrèrent dans leur siège, en essayant de ne pas trop montrer que leur curiosité venait d'être piquée. Si la guerre du duc se déroule selon ses vœux, poursuivait le podestat, nous disposerons donc de nouveaux débouchés commerciaux pour un investissement somme toute raisonnable. Certes, Louromagne ne produit guère de denrées intéressantes. Nous pourrons y acquérir des fourrures et peut-être un peu d'ambre, mais je vous concède que ce marché restera modeste. Dès lors, l'intérêt d'un nouveau comptoir reste assez limité, intervint le sénateur Punzone. C'est sans compter les autres opportunités que nous offrira ce port, répondit posément le podestat. Les clans de Romagne sont en contact avec les bogards de Féménie. Troc ou pillage, ils ont accès à des marchandises hors de prix dans nos contrées, comme les faucons dressés des nomades ou les étalons des steppes. Jusqu'à présent, pour que ces animaux de prestige arrivent jusqu'à nous, il faut qu'ils transitent par la principauté du Sacre, puis par le duché de Bromel, ce qui contribue à leur cherté. Alors que si nous parvenions à les acheter directement au clan barbare, cela supprimerait un intermédiaire. De ce fait, nos prix seraient plus concurrentiels, tout en augmentant nos marges. Le patron agita légèrement la main d'un geste qui alluma un bref reflet sur ses deux bagues, le petit sceau d'Ucatoré et l'anneau de la podestatie. Toutefois, soyons lucides. L'arrivage de ces produits de luxe resterait soumis à de multiples contingences et serait donc irrégulier. Il nous apporterait une plus-value intéressante, mais marginale par rapport à nos principaux profits. Un sourire fin se dessina sur ses lèvres, en une expression qui signalait chez lui les combinaisons fructueuses et les coûts gagnants. Nos principaux profits viendront naturellement de notre principal débouché, poursuivit-il. Et notre principal débouché reste Bromel. Grâce à ce nouveau port franc, nous échapperons à la fiscalité ducale. Nous drainerons au minimum le commerce de la vallée de la Claye. Celui des terres récemment conquises, qui ne nous rapporteront que peu de choses, mais aussi celui des terres de la rive droite, qui nous offriront les marchés des comtés de Kimark et de Brockmel, voire au-delà vers la région de Carwell. Le sourire du podestat se fit tranchant. En n'ayant plus à payer le tonlieu pour commercer avec nos partenaires du duché, nous rendrons notre comptoir attractif et nous arrondirons nos marges sur un volume d'échanges considérable. Mieux encore, en drainant ainsi le commerce de grands ports bromalois comme Longomore et Wickensberg, nous assécherons en partie les rentrées fiscales du duc. Moins d'activité dans les bonnes villes de Bromel, donc moins de taxes. Et ce ne sont pas ces conquêtes dans des territoires aussi mal mis en valeur que ceux des clans qui compenseront les pertes de Ganelon. Au final, nous y gagnerons donc bel et bien sur plusieurs tableaux. Les bénéfices que nous ferons dans notre port franc amortiront rapidement le coût de notre expédition, comme la dot que je verse à ma fille. Quant à Ganelon de Bromel, ses problèmes de trésorerie le rendront à nouveau dépendant de nos financements. Je ne lui donne pas 10 ans pour se retrouver aussi endetté auprès de nos maisons qu'il l'était avant d'épouser Clarissima. Avec des intérêts au taux qu'il nous plaira de fixer, ce qui, en définitive, fera de Bromel à la fois notre client et la source de nos rentes.